flacon qui se souvient d'où jaillit toute vive une âme qui revient. Mille pensées dormaient, chrysalides funèbres, frémissant doucement dans les lourdes ténèbres qui dégagent leur aile et prennent leur essor, teintées d'azur, glacées de rose, la médaille. Voilà le souvenir enivrant qui voltige.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, libre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux de beau pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débat du jour qui commence avec aujourd'hui un programme un petit peu particulier puisqu'il s'agit de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés. Ce quelqu'un, c'est Henri Gougaud. Et Henri Gougaud, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire littéraire parce que nous l'avons reçu dans cette émission il y a très 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 longtemps puisque c'était dans les années 80. Pour le livre qui s'intitulait Bélibaste, livre qui a connu un grand succès. Et puis après, nous l'avons retrouvé de livre en livre, avec toujours autant de plaisir, autant de joie, et jusqu'au dernier, pour lequel nous avons fait une émission. Malheureusement, le dernier qu'il a écrit sortira l'année prochaine, probablement, et nous n'aurons pas l'occasion d'en parler, parce que Henri Gougaud, qui aurait eu 89 ans, le 7 juillet, nous a quittés lâchement le 6 mai, sans qu'on s'y attende. Et nous voilà donc avec notre tristesse, mais aussi avec la joie de l'avoir connu. L'avoir connu pour ses livres, pour ma part, mais son compagnonnage avec les anarchistes est une longue histoire qui a commencé alors qu'il était jeune, qu'il avait quitté son pays natal pour aller faire les études à Toulouse. Et c'est là qu'il a rencontré de joyeux lurons qui faisaient du théâtre et qui faisaient partie du groupe Louise Michel. Et Henri Gougaud s'est mis à les fréquenter, a découvert le monde libertaire, a écouté aussi Georges Brassens et s'est dit qu'un jour, lui aussi, il irait à Paris, il ferait partie de ce monde-là, du monde de la chanson, et que peut-être un jour il passerait à la mutualité. Puis les mois ont passé, les années, et effectivement il est monté à Paris pour aller faire le gala à la mutualité. Et juste avant, il est allé faire un tour par la rue Lamarque dans une célèbre librairie où il y a rencontré Maurice Joyeux et Suzy Chevet. Et ça a été une vraie amitié qui est née. Maurice Joyeux lui donnant du « Ma petite vieille » et Henri Gougaud très impressionné et très touché qu'on puisse lui dire qu'il y aurait toujours un bol de soupe pour lui. Et pour lui, c'était une vraie amitié. Alors, il a continué, il a fait ce gala de la mutualité et puis il en a fait d'autres. Il a même fait un gala de soutien à Radio Liberté. Il a fait des émissions sur Radio Libertaire au tout début et puis il a continué de venir nous voir. Alors, bien sûr, Henri Gougaud, comme vous le savez, il a eu plusieurs vies. Il a eu une vie de chanson en passant au cabaret de l'Écluse et dans d'autres endroits, rive gauche. Il a été chanteur, il a écrit ses chansons, puis il en a écrit pour d'autres, bien sûr, plein, dont Paris m'arrose. Il a écrit plein de chansons aussi pour Jean Ferrat. On aura l'occasion d'en entendre dans cette émission. Il avait une place un petit peu particulière dans la chanson, parce qu'il en a connu beaucoup, même des plus jeunes comme Lavilliers ou Higelin, et il était une maison au volet noir au bord du village pour eux, et ça a quelque chose de touchant. Et puis après il est passé dans le domaine d'une autre forme d'écriture, il s'est mis à écrire des livres grâce à Jean-Marc Roberts qui d'ailleurs a été le premier invité de cette émission. Donc Henri a écrit un recueil de nouvelles intitulé « Département et territoire d'outre-mort » et après il s'est lancé dans le roman. Après ses années radio, et c'était un grand écrivain, il avait une plume particulièrement riche, talentueuse, avec la capacité à faire naître l'émotion au détour d'une phrase quand on s'y attend pas. Alors, dans cette émission, on a surtout parlé du Henri Gougaud écrivain. Et moi, c'est de celui-là dont j'ai envie qu'on garde la trace, parce qu'on parle souvent de lui en tant que conteur. C'est vrai que ça a été une partie importante de sa vie. Mais pas que. Il a fait vraiment de très beaux livres. Et comme dans cette émission, qui n'a pas de chef, c'est moi qui décide, eh bien, j'ai choisi de vous rediffuser une interview que nous avions faite à l'occasion de la sortie d'un livre qui s'appelait Les Voyageurs de l'Aube, qui était paru chez Albin Michel et qui est un de mes préférés. Alors, tant qu'à faire, autant parler de ce qu'on aime, même si j'aime tous ces livres. Voilà, on va le retrouver pour celui-là. Et puis après, on l'entendra raconter quelques histoires. En tout cas, il est avec nous, il reste avec nous, et comme il disait tout le temps, bonne vie.
Amgar yitsel dugbaran usdil siyala yizazin ميس يتحبر القوت وصندوق قوس الزين وغريت سلذق برنوس ليس يالي الزيزين ميس يتحبر القوت وصندوق قوس الزين سليف ذفير ومزطاق سليتي جبالين أرش الزين ديد وغرس صغر تقديمين سليف ذفير ومزطاق سليتي جبالين أرش الزين ديد وغرس صغر تقديمين يا لا لا يا لا 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 أرش الزين ديد مغار يا لا لا يا لا 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 أسن صغر تقديمين بقاتيني ما يلي غريب رغاها
وكل الوحش العبا غابا بينو غابا بينو
غابا وبالغول اذناكيني ما يلي غريب رغاها يا حلولن جمعت تسرقو تفسو ثقور يدرن حجبن فليت سود ذيبورا ثقيك شممت يا حلولن جمعت تسرقو تفسو ثقور يدرن حجبن ملاق جمورا تسفتي ذكراكيني ذنين ملال داكوات وخاميت ما شاهم تلسلن ملاق جمورا تسفتي ذكراكيني ذنين ملال عندك واث وخاميث ما شاهو تلسلم
يا لا لا يا لا لا لا
ملال عندك واث وخام
يا لا لا يا لا لا لا
ما شاهو تلسلم
فالكلي انت بردابة بين وبعابة بين وبعابة
جمجم تيز بقاثيني ما يلي غريب غابة
وكل الوحش العابة
Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le plaisir de retrouver, avec beaucoup de fidélité, de joie et de plaisir, Henri Gougaud, pour un nouveau roman paru chez Albin Michel, qui s'appelle « Les voyageurs de l'aube ». Alors, ce roman, il est magnifique, on s'était vu il n'y a pas si longtemps que ça pour parler de Louise Michel, bien oui. sûr, avec un roman qui a connu un certain succès, oui, et j'en suis ravie, parce que ça a été quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, évidemment, sur cette antenne. Et là, Henri Gougaud revient avec Les Voyageurs de l'Aube, on est dans un registre complètement différent, et moi, ce roman m'a absolument captivée, pour beaucoup de raisons. D'abord, parce que je l'ai trouvé très ambitieux, d'avoir, je vais dire, l'audace, de mêler à la fois le roman et les contes, et d'en faire quelque chose qui tienne la route et qui se lise avec beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est la première fois qu'il y a ce mélange, Henri Gougaud.
C'est la première fois, oui. C'est la première fois. C'était, je dois dire, qu'il m'a donné beaucoup de soucis, ce roman. Parce que, justement, moi, j'avais envie de faire un roman-conte. Un roman d'abord intemporel. Et il se passe au désert. Et s'il est un lieu intemporel, c'est bien le désert. Où des personnages se rencontreraient et raconterait, on attend une caravane hypothétique, on attend une caravane dont on ne sait pas si elle va arriver. Et voilà. Et il y a cinq personnages comme ça qui attendent. Et qui, en attendant, se racontent leur vie, se racontent des histoires. Mais en même temps, il se passe des trucs entre eux. Donc il y a une trame romanesque. Et Et le conte. Voilà, j'avais l'ambition de faire ça, de faire un roman conte, un roman dans lequel s'intégreraient des contes, parce que je suis pas, parce que le conte c'est quand même mon, c'est pas une passion, mais enfin c'est quand même un centre d'intérêt constant, oui. Et voilà. Donc jusqu'à ce que qu'il soit fini et que je le fasse lire à mes proches, je savais pas si la mayonnaise avait pris. Mais enfin, on m'a dit que oui.
Oui, oui, oui. Et c'est d'autant plus intéressant que justement le roman et les contes se répondent. Il y a un jeu de miroir comme ça qui fait que les contes font évoluer le roman et le roman fait également évoluer les contes.
Oui, donc, c'est ça. Oui. Ben c'était l'ambition. Voilà, donc c'est un livre, le livre d'un amoureux du désert, d'un amoureux des contes et d'un raconteur d'histoire. Moi, je suis un saltimbanque, je suis un raconteur d'histoire.
Alors, intemporel, oui et non. J'avais envie de dire...
En tout cas, l'époque n'est pas précisée.
L'époque n'est pas précisée, mais les lieux ne sont pas neutres. Parce que ce n'est pas un désert hypothétique.
Pas du tout.
Et ce désert, la localisation de ce désert est importante.
Ouais, pourquoi ?
Parce que Palmyre, parce que Rumi, parce que
Bagdad.
Bagdad, parce que toutes ces références qui sont qui donnent à voir au travers du roman autre chose que ce qu'on peut nous vendre.
Ouais, ben évidemment, c'est pas innocent, mais... en fait, si je dis la vérité, j'ai choisi cet endroit du désert que je connais parce que c'était un passage obligé. Autrefois, des grandes caravanes qui venaient de Samarcande, qui venaient de la Chine et qui forcément passaient par là. Donc, je voulais qu'il y ait quand même cet élément de vraisemblance, quoi. Et puis, effectivement, parler de Bagdad, parler de Palmyre, d'Alep aussi, enfin de ces lieux-là qui sont aujourd'hui tellement martyrisés, on peut dire ça. Et en parler sur un autre ton, d'une autre manière, de parler de la vie, justement, qui est dans un lieu largement dédié à la mort aujourd'hui, ça me paraissait intéressant, quoi.
Oui, et puis parler, mettre en exergue du livre une citation de Rumi et le fait qu'il revienne régulièrement dans le roman, c'est pas neutre non plus.
Non, c'est pas neutre non plus, non, non, bien sûr, mais ça, on ne peut mettre que... Même quand on a, comme moi, l'ambition de raconter des histoires, je ne suis pas du tout exhibitionniste, moi, je n'aime pas parler de moi et tout ça, on y met forcément beaucoup de soi, quoi. On ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas... quand on raconte une histoire... Alors, j'aime bien que ça se fasse à mon insu. Voilà, j'y mets beaucoup de ce que je suis. Effectivement, je considère les grands poètes comme Rumi, les grands poètes persans du XIIIe siècle comme les plus grands poètes du monde pour moi. Ils ont dit des choses absolument magnifiques.
Alors ces voyageurs vont se retrouver par hasard dans un lieu absolument improbable qui lui-même a une histoire particulière et qui n'est pas une simple maison, mais qui est, j'allais dire, la maison des transformations d'une certaine manière, parce que ce livre est aussi un livre initiatique.
C'est-à-dire, d'abord, oui, c'est une maison, il n'est pas n'importe quelle maison, bien qu'elle ait l'air de n'importe quelle maison, parce que, et ça c'est une légende que j'ai trouvée sur place, parce que je vais, enfin pas tout à fait sur place, dans le sud tunisien, mais enfin bon, dans le désert quoi. Il y a une légende qui raconte l'histoire de deux voyageurs qui s'étaient perdus dans le désert, qui étaient à bout de force, qui, bon, les gens, voilà, qui tirent la langue dans le désert, qui vont mourir. Et puis le soir tombe, ils aperçoivent une lumière. Et ils se disent, une maison, on est sauvés. Et ils crapahutent jusqu'à cette maison parce qu'ils sont à bout de force. Et il y a juste, voilà, un homme les accueille sur le pas de la porte. Entrez, mangez, buvez, on les nourrit, on les loge puisqu'on leur offre deux lits confortables. Enfin, ils mangent bien, ils passent une bonne nuit, ils sont prêts à repartir le lendemain. Ils repartent le lendemain, ils font quelques pas, ils se retournent pour saluer le maître de maison qui les a accueillis. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de maison derrière. Quoi.
Elle n'a jamais existé.
Elle n'a jamais existé, quoi qu'ils soient requinqués quand même.
Ouais, c'est ce qu'on leur dit.
C'est ça. Ah oui, le premier berger qu'ils rencontrent, leur dit une maison là, quelle maison? Il n'y a jamais eu de maison là. Voilà. Il n'y a jamais eu de maison. Et voilà. Et ils arrivent au village prochain, et là, il y en a un qui poursuit sa route, et l'autre qui dit, il n'y a jamais eu de maison, moi je vais la faire. Voilà. Et il construit cette maison. Il construit cette maison pour, où il y a toujours eu un veilleur, qui allume une lanterne à la fenêtre tous les soirs, au cas où des voyageurs perdus pourraient trouver refuge là. Et voilà pourquoi ils attendent la caravane là, parce que justement, les personnages qui sont arrivés et qui attendent la caravane, qui sont tous, ils sont cinq, et ils fuient tous quelque chose. Quoi. Ils se disent, mais attends, il y a une caravane là.
C'est de la folie, ils vont pas s'arrêter là.
Ils vont pas s'arrêter là. Et celui qui est le veilleur du moment lui raconte l'histoire et leur dit, toutes les caravanes s'arrêtent là. En mémoire de ce qui s'est passé, parce que pour eux, c'est pas une légende. Et aucune caravane ne passerait à proximité sans s'arrêter. Pour une journée de repos, de méditation autour de cette maison miraculeuse, quoi.
Il voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garder. Il voyage en solitaire, et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul, un jour, l'amour l'a quitté sans déconner. Faire tout l'autre côté du fil où il n'y avait pas de place pour se garder. Voilà le miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la
Alors, c'est vrai que ce roman, Henri Gougaud, Les Voyageurs de l'Aube, se déroule sur 10 jours.
Ouais.
Et
qui commence par un mort et qui finit par une naissance.
Voilà. Le cycle. Et d'ailleurs, la phrase qui est citée évoque qu'on ne peut pas atteindre l'aube sans traverser la nuit.
Ouais.
Évidemment. C'est aussi un roman sur la transmission, parce que on évoquait cette maison qui va naître comme ça de cette légende et de cette aventure. Et ensuite, le veilleur, eh ben, va toujours à chaque fois y avoir un nouveau veilleur et un autre va prendre la place et ainsi de suite. Et la transmission va se faire.
Ouais.
Et toujours la lumière sera accrochée. La transmission des histoires individuelles va se faire par le biais, effectivement, des contes qui sont racontés. C'est quelque chose d'important, la transmission.
C'est essentiel. Je veux dire, c'est pour moi la transmission des expériences, des histoires, enfin, parce que les histoires sont pleines d'un tas de choses. On peut pas en parler là, parce que là, je squatterai le lieu pendant plusieurs jours. Mais oui, la transmission, c'est la circulation du sang dans le corps de l'humanité. Mmh. C'est absolument
très beau, ça.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Alors, cette transmission, elle va se faire d'emblée, effectivement, puisque le veilleur, Nathan, qui est celui qui occupe la maison, arrive à la fin de sa vie. Et les voyageurs, au moment où il débarque, vont le trouver quasiment...
Mais c'est ça. Il meurt pour le premier jour. Et justement, ce jour où arrive, par hasard, un type qui s'est perdu... dans le désert, qui savait pas, qui allait un peu au hasard, un ancien esclave d'ailleurs, un ancien serviteur dont la troupe de son maître richissime s'est fait attaquer par des brigands. Évidemment, ils ont tout pillé, mais
et
lui
il
n'avait
rien.
Et il est parti tout seul, et par hasard il est arrivé à cette maison. Au moment où, mais ça se passe toujours comme ça. Le hasard n'existe pas. Le hasard, voilà, c'est comment on qualifie le hasard. Le hasard, c'est quand Dieu voyage incognito. voilà. Bon, moi, je crois pas en Dieu, mais enfin, je crois pas au hasard non plus. Mais bon, voilà. Et il arrive au moment où. Le vieux veilleur qui est là est au bout de sa vie et il lui dit voilà, tu arrives là, mais tu arrives juste au moment où il faut arriver, quoi. Est-ce que tu es prêt à me succéder? Et l'autre, qui n'a pas d'attache nulle part, il lui dit d'accord.
Oui, enfin, il lui dit d'accord.
Oui.
Il lui dit d'accord. Est-ce que tu resteras jusqu'à la fin de tes jours? Ça, je ne peux pas te répondre parce que je ne suis pas seul à mener ma vie. Il y a aussi l'imprévu.
Oui,
ça
c'est
aussi,
ça.
C'est beau.
Oui, c'est ça. Oui. Et de toute façon, alors le vieux veilleur, c'est Nathan le Copte. Nathan le Copte, qui raconte sa vie aussi. Comment il est arrivé là lui-même? Ouais. Et il raconte ça. Et puis il y a quand même une drôle d'histoire d'amour avec, parce qu'il il y a personne sur ces lieux, il y a une maison, un figuier, un puits, un âne, quoi. Voilà, c'est tout. Et il faut qu'il soit ravitaillé
et
périodiquement l'âne ou l'ânesse va au village à une journée de là et puis il va chez quelqu'un. Chez une femme qui remplit les sacs de l'âne de légumes, de fruits, enfin de ce qu'il faut pour vivre.
Émet une lettre,
oui. Et ils correspondent comme ça. Ils se sont jamais vus. Ils se sont jamais vus et ils vivent une histoire d'amour par lettres échangées, par petits mots parfois, par... voilà, et finalement, l'amour circule aussi. Parce que, au fond, ils se sont jamais vus, elle ne sait pas à qui elle écrit. Il ne sait pas à qui elle répond. En fait, ils se trompent sur leur identité mutuelle.
Oui, mais ça n'a pas d'importance.
Ça n'a aucune importance. Il faut que l'amour, disons, le sentiment amoureux circule parce que s'il n'y a pas ce sentiment amoureux, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment vie? Voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie, je crois.
Oui, et puis ça montre à quel point ce sentiment amoureux, c'est aussi une création et une récréation, dans la mesure où peu importe qu'elle soit vieille, difforme, on s'en fout
complètement.
Ce qui
ouais.
compte, c'est que ça existe en soi,
voilà.
Que ça soit Nathan qui écrive les lettres, ou ensuite le nouveau veilleur qui prendra le relais,
son
identité. Là aussi, on est dans la
aussi.
Transmission.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est pareil, l'amour aussi, ça se transmet, ça se partage, ça existe en soi. J'allais dire que c'est une espèce d'égrégore et peu importe l'individu derrière.
Voilà. Voilà. Et puis, à part ces personnages-là, il y a une femme qui arrive enceinte, d'ailleurs, puis qui accouchera à la fin de...
Enceinte, en colère,
sans homme, quoi, sans mari. Elle racontera sa vie, elle racontera pourquoi et comment elle est arrivée jusque-là. Il y a un musicien arménien.
Ah oui.
Oui,
là aussi une histoire douloureuse, parce que certes c'est intemporel, mais bon, ce qu'il connaît quand même dans son enfance, ça rappelle aussi des choses.
Et chacun racontera sa vie. Il y a un moine dont on ne sait pas trop
Hilarion.
Si c'est un moine. Mais là je me suis inspiré d'une histoire vraie, plus d'un personnage comme ça qui était dans sa jeunesse, qui est grec, il tombe amoureux, puisque la Turquie occupe, les Turcs occupent son pays.
Et il les déteste.
Il les hait.
Bien sûr.
Oui, bon. Et il tombe amoureux, comme ça, en la regardant passer, de la femme du gouverneur de la région, qui a une résidence d'été dans son village. Et ni une ni deux, il l'enlève.
Oui, ouais. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que suprême offense, elle lui fait une obole. Elle lui jette une pièce au départ.
Ouais.
Et ça, il n'y a pas plus humiliant que ça. Quand on vit ce genre de scène, ça a de quoi déclencher la fureur.
Voilà, c'est insupportable, oui. Et du coup, il rassemble quelques amis le soir même, il monte à l'assaut de la résidence d'été, il enlève la femme et il croit tuer le mari de la femme. En fait, un coup de sabre tranche ses yeux, il survit, il est aveugle. Et effectivement, il va vivre avec cette femme. Ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé de voir à quel point les gens peuvent être différents selon le conjoint, si j'ose dire. Parce que le mari... va la décrire plus tard, la décrira comme une femme, on ne peut plus féminine, amoureuse des roses, des bons repas,
du luxe,
et tout ça, fragile aussi, alors que avec le brigand qui l'enlève, puisqu'il devient brigand.
Elle va vivre une vie complètement différente.
Complètement, opposée, une vie d'aventurière, quoi, une vie de brigande. Et voilà. Bon, alors ça, c'est les histoires qui se racontent. Évidemment, le mari de l'épouse en question, il survit, il est sauvé par une femme dans un village. Il reste aveugle, mais tout aveugle qu'il est, il n'a qu'une obsession dans la vie, c'est de retrouver l'homme qui lui a piqué sa femme. Et puis, il est sur ses traces. Enfin, il se retrouve là, dans cette maison.
Tout se passe dans cette maison.
Ouais. Il se retrouve là, voilà.
Cuando los que aman se reúnen, la forma es otra. Con el vino del amor, la ebriedad es otra. Aquella ciencia adquirida en la escuela es una cosa, y el amor es otra.
للغير إن ظهرت وجود أننا
personnage qui me plaît bien, moi, qui est le paysan qui arrive du village, qui vient attendre
qui
la caravane
pour ramasser les crottes de chameau.
Pour ramasser les crottes de chameau. Ça, on dirait mon grand-père. Parce que mon grand-père, quand j'étais, quand j'étais gosse et qu'il y avait encore des chevaux dans les, à la campagne, quand il fallait... quand il y avait un chariot avec des chevaux qui passaient, mon frère et moi, ils nous envoyaient au cul des chevaux pour ramasser le crottin pour fumer le jardin. Ça me plaisait pas du tout. Mais ça, et donc, j'ai pensé à ça quand j'ai introduit ce personnage. Parce que, en fait, pour lui, le plus important de ce que peut transporter la caravane, c'est pas des soieries, c'est pas des bijoux, c'est pas, c'est le crottin, quoi.
Oui, c'est va... l'avenir.
Ouais, c'est ce qui va lui
pousser dessus.
Voilà. Enfin bon, voilà, tout ça. Je m'aperçois qu'il est extrêmement difficile à raconter ce livre.
Non, mais parce qu'il y a plein, effectivement, d'histoires qui s'entrecroisent. Et je crois que chacun, à un moment donné, va se mettre à aimer un personnage plus qu'un autre. Moi, j'ai une tendresse particulière pour Majid, celui qui va devenir le nouveau veilleur,
ouais.
Qui connaîtra aussi un changement. Parce que lui, toute sa vie... on évoquait le hasard, mais toute sa vie comme ça a été le fruit de bouleversements. Il s'est laissé guider.
Oui.
Et ça l'a amené là où il devait être.
Voilà, d'une certaine manière, ça fait référence à un conte d'Idriss Shah qui est l'homme à la vie inexplicable. C'est-à-dire l'homme qui... Il se laisse pas porter par le destin. Il va où... voilà, il accepte tout, tout ce qui se présente, quoi. Il accepte de tout vivre. Alors, il passe par différentes expériences, tout ce qu'il rencontre lui est bon, même quand il devient le serviteur, l'esclave d'un type qui le martyrise un peu, qui le malmène, ben c'est un truc à vivre, quoi. Voilà. Mais effectivement, tout ça est nourri de... Il n'y a pas de référence à des contes précis, quoique. Mais voilà, j'ai voulu que les contes, même dans la vie des gens, pas seulement dans leur récit, soient là. Pour moi, les contes sont quand même disent beaucoup sur notre vie, sur la manière de la mener, c'est un peu idiot de dire qu'ils sont intemporels. Ils parlent de la vie, ils parlent pas du monde, les contes. Voilà. On est aujourd'hui beaucoup occupé par le souci de du monde, du pouvoir, de la sauvegarde du monde, etc. On n'est pas assez peut-être. Enfin, je ne sais rien. Moi, pas assez ou trop, je ne sais rien. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, si j'ai eu, je m'aperçois maintenant à l'âge que j'ai, que si j'ai eu un maître qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, c'est le Comte.
Oui, puis il y a cette, j'allais dire, il y a ce côté fluide. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, voilà, me touche profondément, c'est ce mouvement. La vie, c'est aussi ça, c'est le fait, ouais, que rien n'est fixé dans l'instant d'après et qu'on est dans une époque où c'est une espèce de rationalisme morbide ambiant là, qui, ouais, fiche tout, tout le monde avec des étiquettes, des boîtes, des machins, des ceci.
Ouais, c'est
alors
ça.
Que le Conte, c'est le contraire.
C'est le Conte, c'est la possible. Liberté. Le Conte est fondamentalement libertaire.
Tout à fait. Et c'est ce qui permet de, même si on est dans les situations les pires qui soient, on n'empêchera jamais quiconque de raconter un conte.
Oui, et puis les contes donnent sinon des réponses à des questions, mais du moins des éclairages. À des situations, des éclairages auxquels on n'avait pas pensé.
Tout à fait. Moi, je pense, en écoutant là, à un texte qui s'appelle Le I Ching.
Oui, oui, ben oui.
Célèbre, oui, Le I Ching, qu'on peut questionner, parce que c'est effectivement quelque chose qui permet parfois aussi de réfléchir et de méditer en lisant Le I Ching. Ben, le conte, c'est pareil.
Ouais.
Il suffit des fois d'ouvrir un livre de conte au hasard, on en a déjà discuté,
ouais,
et on tombe à chaque fois sur celui qui tombe pile.
Oui, j'aime pas trop le Yiking, moi. J'aime pas qu'on me dise, j'allais dire une bêtise, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Parce que le Yiking, il dit ça, au fond.
Pas vraiment.
Non,
non, non. Non,
moi, je le prends comme ça. Ça dépend comment on le prend, au fond. Hein. Le conte, il est beaucoup plus amical.
Il accompagne.
Ouais.
Ouais.
Il est tout aussi efficace, il est beaucoup plus amical, oui. Ouais, voilà. Bon.
Alors, c'est un roman, ça s'appelle Les Voyageurs de l'Aube, c'est de Henri Gougaud, c'est chez Albin Michel, donc sur 10 jours. Et c'est, à un moment donné, on évoquait le caractère intemporel par rapport justement à quand se déroule ce périple de nos voyageurs. Mais à un moment, on dit, tiens, on est au 6e jour, mais on a complètement perdu la notion du temps. Et ça, c'est aussi assez fascinant quand on est lecteur, c'est que dans ces histoires emboîtées qui se répondent, eh ben, le temps se démultiplie complètement. Et on a beaucoup de mal à croire, quand on arrive à la fin du livre, qu'on n'est qu'au 10e jour.
C'est un peu une... on doit ça au désert, je crois. On perd facilement la notion du temps au désert. Le désert est par nature intemporel, le silence du désert, l'absence de végétation, ce qui fait que il n'y a même pas le bruissement du vent dans les arbres au désert, il n'y a pas d'arbres. Cette espèce de truc qu'on a l'impression de qui est installé pour l'éternité et qui donne une idée de l'infini, parce qu'on peut monter sur la dune, ben on va voir d'autres dunes, et puis sur la dune prochaine, et puis on va voir, c'est infini le désert. Ça donne une idée de l'infini. Moi, j'aime les gens du désert. J'y vais tous les ans, parfois 2 fois par an, toujours au même endroit. Et c'est des gens, bon, on peut pas dire pour qui le temps ne passe pas, mais il y a quelque chose d'absolument nécessaire, sinon on ne survit pas au désert, c'est la solidarité. D'être solidaires les uns des autres, quoi. Sinon, il n'y a pas de survie possible. Et je me souviens, bon, c'est en dehors du livre, mais enfin, j'aurais pu le mettre. Je me souviens qu'au camp où je vais, chaque fois que je vais au désert, je vais toujours au même endroit, un soir, un jour, il y a un chamelier avec une famille de touristes allemands qui passent. Voilà. Et il y avait deux gosses jeunes, 5-6 ans, quoi, des petits quand même. Et j'étais avec un type du camp et qui s'appelle Mustapha. Je lui ai dit, mais c'est pas imprudent quand même d'amener des gosses petits comme ça en randonnée. Et il me dit oui, moi je le ferai pas, mais enfin bon, ils le font. Ils passent. Et ils avaient prévu de rentrer le soir et de coucher là. Et au soir, la nuit tombe, sur le coup de 9-10 heures, je lui dis à Moussa, ils sont rentrés les Allemands? Il me dit non. Merde alors, ça fait tard quoi. Mais on va les attendre, il me dit. Ils ont veillé jusqu'à 1 heure du matin. Ils se lèvent à l'aube, hein, quand même, à 4 heures du matin. Ils ont veillé à 3 ou 4 jusqu'à 1 heure du matin. Et quand ils ont entendu, parce qu'on entend de loin, quand ils ont entendu arriver, ils sont allés se coucher. C'est-à-dire que ces Allemands, ils ne sauront jamais qu'il y a des gens qui ont veillé jusqu'à 4 heures du matin, jusqu'à minuit, 1 heure du matin, pour les attendre. Sinon, ils seraient partis à leur recherche. Mais voilà, c'est tout naturel pour eux. Et ça, c'est bon. C'est une parenthèse par rapport au livre. Mais enfin, pour moi, ça donne une idée.
Hein? C'est dans l'esprit du livre.
Ouais.
tout à fait dans cette notion, parce que l'exemple aussi très net qu'il y a dans les voyageurs de l'aube, c'est bon, c'est Anne qu'on envoie et qui revient avec les paniers chargés, donc cette notion de générosité, parce que il n'y a pas que l'amour qui fait ça, ça peut ça préexiste, et puis il y a cet enfant qui va avec. Ouais. Et moi j'aime beaucoup, parce qu'on l'a pas évoqué ce personnage, mais le personnage de cet enfant, il est important parce que c'est lui qui va réussir à apaiser le personnage féminin du livre. C'est lui qui va, par son existence, lui faire comprendre ce que c'est que l'amour d'un enfant et lui faire comprendre que l'enfant qu'elle porte est quelque chose qui va l'emmener vers demain.
Oui, c'est ça. Elle vient de loin, la pauvre. Elle a vécu à Bagdad. Elle est la fille d'une patronne de bordel qui a décidé de faire de sa fille la plus la plus grande courtisane de Bagdad. Et elle y arrive. D'ailleurs, elle devient la plus grande courtisane de Bagdad à la suite de l'épisode du du fou là.
Triste.
Ouais. Bon, et elle tombe enceinte, comme on dit, et ce qui pour une grande courtisane est rédhibitoire.
C'est la fin.
Ouais. Donc elle a décidé de partir au Caire, de voyager où elle a des relations, où elle
elle pense qu'elle accouchera,
elle trouvera un mari, enfin, elle se refera une vie, quoi. C'est-à-dire que cette fille, j'avais lu une anecdote comme ça, d'une prostituée, d'une grande prostituée, qui faisait naître le désir, qui savait faire naître le désir, la volupté. Un homme lui avait dit ça, comme ça. Et elle avait eu une révélation, elle s'est dit, mais moi, j'ai jamais connu le plaisir. Mmh. Et voilà, elle savait faire naître le plaisir, le désir, la volupté.
Mais rien pour elle,
quoi. Et voilà, et elle est comme ça, quand elle arrive. Mmh. Elle est comme ça quand l'enfant qu'elle porte, c'est un fardeau, c'est tout. C'est un truc dont elle espère se débarrasser le plus vite possible. Seulement, il y a un enfant qui est là, et il y a un musicien qui tombe amoureux d'elle, et qui va lui voilà. Et parce que je crois que la musique, c'est l'art majeur pour moi, parce que la musique dit des choses qu'aucune parole ne peut dire, quoi.
Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le livre, d'ailleurs, ouais, dans plusieurs contes.
Oui, c'est ça. Mmh. Ouais. Oui.
Que ce soit aussi, dans la musique ou dans les oiseaux.
Ouais. Voilà, ça va participer. Elle va connaître un renversement de mentalité, enfin de tempérament, je sais pas quoi, de radical, quoi. Tous d'ailleurs.
Tous, oui.
Plus ou moins, oui. Mmh. Tous, ouais.
Tous,
même le moine, même Hilarion. Hilarion qui, lui, commence berger en Macédoine, qui continue brigand après avoir enlevé cette femme, alors qu'il a une vie de brigandage, jusqu'au moment où cette femme, qu'il aime violemment, je dirais, est capturée, enfin, bon, et il la croit morte.
Qui va devenir moine après ?
Qui devient moine parce qu'il se réfugie dans un monastère du mont Athos, mmh. et qui devient moine, qui retrouvera cette femme. Enfin, il passe par combien de vies ? 3 ou 4 vies, quoi.
En plein.
Ouais, ouais.
Mais tous.
Tous, ouais.
Ça s'appelle Les Voyageurs de l'Aube, c'est de Henri Gougaud. C'est un roman paru chez Albin Michel. Ben, Henri Gougaud a d'autres activités. On évoquait Henri Gougaud saltimbanque, d'une certaine manière, avec les contes, toujours. Il y a pas mal de soirées qui sont prévues. Donc, il y a un site Henri Gougaud aussi sur lequel on peut avoir les infos. On peut peut-être parler un petit peu, quand même.
Oui, ben je suis effectivement, je raconte, mais on parlait de la transmission tout à l'heure. Je suis un obsédé de la transmission, moi. Je trouve, il me semble que c'est essentiel dans la vie. Donc voilà, j'anime un atelier deux fois par mois à Paris, deux samedis par mois. C'est une partie de ma vie importante. Oui.
Et en tout cas, merci d'être venu ce soir pour nous parler des Voyageurs de l'Aube.
Ici, je viens comme chez moi.
Et bienvenue. Merci beaucoup.
Merci.
Je voudrais, si c'était possible, une grande maison de bois. Par sa porte d'or invisible, une femme entrerait chez moi. Une femme au regard fleuri, douce à briser le cœur des pierres. En l'attendant passe les nuits, je n'éteins jamais la lumière. Je voudrais, si c'était possible, l'enfant que je n'ai pas été, l'enfant savant, l'enfant paisible, tout ruisselant de vérité. Il serait fontaine au printemps, il saurait tout de mes mystères. En l'attendant passe le temps, je n'éteins jamais la lumière. Je voudrais, si c'était possible, chanter dans un monde jardin, errer par les champs et les villes, vivant de fromage et de vin. Je voudrais vivre parmi vous, heureux amant des éphémères. Passent les guerres et les loups, je n'éteins jamais la lumière. Je voudrais, si c'était possible, vivre le temps d'entendre enfin l'éclat de rire irrésistible d'un soleil à visage humain. Passent les jours en l'attendant, hommes et femmes de la terre, dans la tête de vos enfants, n'éteignez jamais la lumière.
C'est toujours Radio Libertaire, toujours 89,4 MHz, et nous venons d'entendre donc cette interview que nous avions réalisée avec Henri Gougaud à propos de son livre Les Voyageurs de l'Aube, paru chez Albin Michel. Oui, c'est un choix arbitraire, c'est moi qui ai choisi de diffuser cette interview, ce n'est pas la dernière que nous avions faite, mais bon, le livre est tellement beau que j'avais envie d'en reparler, voilà, enfin que nous en reparlions et qu'on puisse donner l'envie de le lire. On va maintenant retrouver Henri Gougaud au travers d'histoires qu'il a pu raconter, des très très belles histoires. C'était un bon conteur sous toutes les formes, mais j'aimerais, lui qui se définissait comme saltimbanque, qu'on garde de lui le souvenir aussi qu'il fut un excellent écrivain.
La jarre fendue. Un pauvre homme, tous les matins, allait remplir à la rivière deux grosses jarres qu'il portait aux deux bouts d'un bâton de fer posé au travers de sa nuque. Celle de droite était parfaite, joufflue, luisante, fière d'elle. Celle de gauche était fêlée. Elle perdait son eau en chemin. Et donc elle s'estimait mauvaise. Elle en souffrait. Elle avait honte, tellement honte qu'un beau jour, elle osa dire tout en pleurs « Pardonne-moi, pauvre porteur. »
« Te pardonner ?» répondit l'homme. « Pourquoi donc ? Qu'as-tu fait de mal ?»«
Allons, tu sais bien. Chaque jour, tu nous emplis d'eau à ras-bord, tu t'échines, tu t'exténues à nous porter à la maison. Et quand enfin nous arrivons, ma compagne a fait son devoir, elle a la conscience tranquille. Moi, non. Je sens qu'elle me méprise. » J'aimerais être comme elle est, mais vois, je suis vide à moitié et tu dois m'en vouloir beaucoup.
Oh non ! Au contraire, dit l'homme. Regarde le bord du chemin de ton côté. Qu'est-ce que tu vois ?
Des fleurs, partout. Elles sont superbes.
L'eau que tu perds, jarre fendue, les arrose tous les matins. Tous les matins, elles te bénissent. Et moi, je te bénis aussi, car chaque jour, je peux offrir un beau bouquet à mon épouse. Tu fais la joie de ma maison.
Regarde de l'autre côté. Ta compagne, certes, est parfaite, mais que vois-tu ?
Cailloux, poussière.
Chacun fait selon sa nature. Ne change rien, ma bonne amie, et ne regrette pas tes failles. Vois comme elles nourrissent la vie.
Raconter aujourd'hui l'une des plus vastes légendes de l'Égypte ancienne. Ça, c'est un trésor qu'aucun pillard n'a pu rafler, car elle était parfois inscrite parmi d'autres récits, parmi des prières, aussi des poèmes, sur les murs des tombeaux des pharaons, et elle y est toujours. C'est l'histoire d'Osiris, le fils de Nout, la déesse du ciel, et d'Isis, la fille de Ré, le dieu soleil. Isis et Osiris s'aimaient d'amour aussi vaste que l'univers. Osiris était un dieu d'une grande bonté, il était tendre et pacifique. Isis était la déesse des fertilités, elle était donc douce et bonne. Osiris épousa Isis et fut le premier pharaon d'Égypte, le premier pharaon mythique, bien sûr. Il régna sur l'Égypte comme un père merveilleux. Il apprit aux hommes l'artisanat, le tissage, l'écriture et l'art de la cuisine aussi. Enfin bref, il civilisa l'Égypte. Et puis il s'en fut offrir aux autres peuples ses découvertes, ses bienfaits. Et enfin, il revint dans sa cité de Thèbes, Thèbes aux 100 portes, la capitale du royaume du Nil. Alors, comme disaient les très vieux conteurs, l'oiseau du malheur ouvrit devant lui ses grandes ailes noires. Un jour, le dieu Seth offre, en l'honneur d'Osiris, un festin somptueux. Seth, c'est le prince des ténèbres. Il est le frère d'Osiris. Parce qu'ils sont en vérité comme les deux faces opposées d'une étoile. Vous voyez, l'un est ensoleillé, Osiris, et l'autre obscur, c'est Seth. Osiris se rend seul au festin de Seth. À peine a-t-il franchi le seuil de son palais de pierre noire qu'une foule de démons au corps humain, aux têtes d'oiseaux, aux têtes de chiens aussi, l'empoignent et le maintiennent immobile devant Seth, qui ouvre devant lui un coffre. Et on le précipite dans ce coffre. Le couvercle claque sur son corps couché. Quatre hommes aux têtes de chacal verrouillent les lourdes serrures, et puis il coule du plomb dans les fentes, dans les moindres fissures, entre les planches aussi, pour qu'il soit, ce coffre, parfaitement clos, parfaitement fermé. Enfin, ils le chargent sur leurs épaules, et ils s'en vont au bord du Nil, et ils le jettent dans le fleuve. Au même instant, dans le palais d'Osiris, à Thèbes, un messager céleste, un homme aux ailes d'aigle, se pose sur la fenêtre de la chambre d'Isis et l'informe en quelques mots, bref, sec. Seth a attiré son frère dans un piège. Osiris a disparu. Voilà ce que dit le messager. Et Isis, entendant cette nouvelle, Isis, les yeux étincelants, se dresse. Elle pousse un cri de rage et de douleur. Elle sort du palais en courant, échevelée. Elle s'en va. Elle s'en va à la recherche de son époux. Et la voilà le long du fleuve qui interroge les gens, elle interroge le soleil, son père le soleil, et les étoiles, et les cailloux, et les roseaux du bord du Nil aussi. Personne ne sait où est Osiris. Personne n'a vu au fil du courant passer un coffre de bois. Elle marche des jours, des nuits, des semaines, et elle gémit sur les chemins, mais elle n'abandonne pas. Elle va comme une vagabonde désespérée, comme une mendiante. Un jour, enfin, devant une petite maison de terre sèche, elle aperçoit un vieillard aveugle qui est assis là, contre le mur. Cet homme, aux yeux blancs, c'est un mage, c'est un clairvoyant. Elle se penche vers lui, elle pose la main sur sa tête chauve. Alors il lui dit, ce vieillard, il lui dit, « Tu es Isis, je te reconnais, et je sais, moi, où est Osiris. Le coffre dans lequel il est enfermé a été entraîné par le fleuve jusqu'à la mer. Près de Byblos, sur les côtes de Phénicie, le courant l'a jeté dans les branches basses d'un arbre, et dans le tronc de cet arbre, le coffre d'Osiris s'est enchâssé. Oui, l'arbre l'a enfermé dans un manteau de bois. Et autour de ce coffre, il a grandi cet arbre, il s'est élevé et il est devenu si beau, il est devenu si majestueux que le roi de ce pays en a fait une colonne qui soutient seule la façade de son palais. Et cette colonne, ben, elle a le parfum de l'iris, la fleur qu'Osiris aimait entre toutes. Ainsi parle le vieil aveugle. Alors, Isis pose ses lèvres sur son front et s'en va vers la mer. Elle marche, et ses pieds déchirés saignent sur les cailloux. Elle arrive enfin au bord de la mer. Là, elle s'embarque avec quelques pêcheurs qui acceptent de la conduire jusqu'à Byblos. Elle est maintenant vêtue de haillons, elle est pareille aux pauvres femmes esclaves, elle a tellement cheminé, tellement marché. La voilà qui arrive devant le palais du roi, devant cet arbre colonne au parfum d'iris. À l'instant où elle arrive, au pied de cette colonne, un petit garçon joue, là, dans la poussière. Et tout à coup, il pousse un cri, cet enfant, et il tombe. Isis se précipite vers lui, un scorpion vient de mordre sa cheville. Alors, la déesse pose sa bouche sur la blessure et l'enfant, aussitôt, s'apaise. Et il lui dit, l'enfant, il lui dit, « Porte-moi devant mon père, car je suis le fils du roi. » Elle le prend dans ses bras, elle entre dans le palais, et il apparaît, le roi, dans l'encadrement d'une porte. Alors Isis dépose l'enfant à ses pieds, et l'enfant dit, « Elle m'a sauvé. » Alors le roi accueille Isis parmi les siens, et elle parle le soir venu. Elle dit, « Moi, déesse de la médecine, déesse de la lune et des moissons, voici pourquoi j'ai entrepris le long voyage qui m'a conduit jusqu'ici. » Et elle raconte sa longue histoire. Le roi l'écoute, et puis il appelle ses charpentiers. Et ses charpentiers délivrent le coffre d'Osiris, enchâssé dans l'arbre colonne. Et Isis délivre Osiris, enfermé dans le coffre. Et les voilà, à nouveau réunis, les époux éternels. L'aventure finit ici, mais ici commence une autre histoire. Isis et Osiris souffriront encore 1000 morts, poursuivis par la haine de Seth, le ténébreux, le prince des enfers. Osiris sera déchiré en 40 morceaux, et son corps sera dispersé sur la terre d'Égypte. Mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai fini.
Eh bien, puisqu'il n'est de bonne compagnie qui ne doivent se quitter, je vais vous raconter, pour finir, l'histoire d'un homme qui vécut autrefois dans le ghetto de Prague et qui était occupé par une idée fixe. Cet homme aimait les gens et il avait envie de les rendre heureux. Et longtemps, il se posa la question de savoir comment il pourrait rendre les gens heureux. Et comme il se posait cette question, un jour lui vint une histoire, une belle histoire, si belle que lui vint l'envie de la raconter. Il se dit, ah, mais si j'avais d'autres histoires comme ça, ah, je suis sûr qu'avec elles, je rendrais les gens heureux. Et les jours suivants lui vinrent d'autres histoires, aussi belles, jusqu'au jour où il se dit, je vais me mettre sur la place, là, du ghetto, et je vais raconter ces histoires aux gens, et je vais les rendre heureux. Elles sont si belles qu'ils seront heureux de les entendre. Et il fit ainsi. Il s'en fut sur la place du ghetto, il grimpa sur un banc, et il se mit à raconter ces histoires. Et des gens s'assemblèrent autour de lui pour l'écouter. Quelques-uns, des hommes, des femmes, des enfants, quelques chiens aussi. Ils l'écoutèrent. Puis ils s'en retournèrent à leurs affaires. On ne peut pas dire que ce fut un succès. Non. Mais cet homme se dit qu'il fallait insister. Et le lendemain, il revint à nouveau sur la place, et sur le même banc il grimpa, et il continua de raconter ses histoires pour rendre les gens heureux, et moins de gens que la veille s'arrêtèrent pour l'écouter, quelques enfants, quelques chiens, qui s'en furent bientôt à leurs affaires. Un troisième jour il revint, et un quatrième, et un cinquième, et le cinquième jour plus personne ne s'arrêta pour l'écouter. Les gens avaient pris l'habitude de le voir là. Ils disaient, ben, c'est l'homme qui parle tout seul. Il continua pourtant de raconter. Non pas 5 jours, non pas 10 jours, mais 5 ans, 10 ans, tous les jours. Il venait là, sur la place du ghetto de Prague, et il racontait des histoires pour les nuages, pour le vent, car plus personne ne s'arrêtait pour l'écouter. Et il fit ainsi jusqu'au jour où un enfant vint à lui, le tira par la manche et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et l'homme lui dit, ben tu vois, je raconte des histoires. Mais pourquoi tu racontes des histoires? Tu vois bien que personne ne t'écoute. C'est vrai, personne ne m'écoute. Mais alors pourquoi tu... Ben parce que j'avais l'ambition de rendre les gens heureux, je voulais changer le monde. Ben, tu vois bien, dit l'enfant, tu vois bien que le monde n'a pas changé. Alors pourquoi tu continues? Et l'homme lui dit, c'est vrai, le monde n'a pas changé. Autrefois, oui, je racontais des histoires pour changer le monde. Mais aujourd'hui, si je continue, et si je continuerai jusqu'à ma mort, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas. Thank you.
La matinée se lève, toi debout, il est temps.
Attends encore, attends, j'ai pas fini mon rêve. Attends encore un peu, je refaisais le monde.
Lève-toi donc, respire.
J'efface mille avions, une guerre, un empire.
Faut labourer la terre et tirer l'eau du puits.
Changer la vie et puis abolir la misère.
Regarde l'alouette, il est midi sonné.
Le monde abandonné, je le donne aux poètes.
Allons, viens dans les vignes, le soleil est dans.
Sera beau, je l'affirme, je signe. Le monde sera beau, je l'affirme, je signe.
Se retrouve cendre et givre, adieu. Et pourtant j'aurai tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais les yeux. Je voudrais faire un jour de gloire d'une femme et d'une guitare, d'un arbre et d'un soleil d'été. Je voudrais faire une aube claire pour voir jusqu'au bout de la terre des hommes vivre en liberté. Assis entre deux équilibres dans ce monde qui se croit libre et qui bâtit des miradors. Je voudrais bien que nul ne meure avant d'avoir un jour une heure aimé toute voile dehors. À peine a-t-on le temps de vivre, on se retrouve cendre et givre, adieu. Et pourtant j'aurai tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais les yeux. De mes deux mains couleur d'argile, je voudrais bâtir une ville blanche jusqu'au-dessus des toits. Elle serait belle comme une chanson du temps de la commune, pétrie d'un bonheur hors la loi. Et puis que le printemps revienne, je voudrais fois Prague et Athènes, comme enfants riant aux éclats. Lorca errant dans Barcelone, tandis que l'abeille bourdonne dans la fraîche odeur des lilas. À peine a-t-on le temps de vivre, on se retrouve sans régivre. Adieu. Et pourtant j'aurai tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais les yeux.
On arrive à la fin de cette émission Idéaux et Débats. Ce sera la dernière d'ailleurs de la saison. J'avais envie de terminer sur cette émission pour que Henri et Gougo restent dans notre souvenir. Henri, c'était la vie, c'était aussi des rires et des colères. Il a aimé, il a été aimé, la vie l'a aimé et il a été des nôtres et il le restera.
Roi du libertaire, roi du libertaire, roi du libertaire, roi du libertaire. Roi du libertaire, roi du libertaire, roi du libertaire.
Conscrit qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique. Et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveau disponible par de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Infinie de fascine et de saoule, coulée dans le grand monde.
saisit le cœur. Ça sent la fête enfouie dans l'ombre de nos nuits. Elle entre sans frapper, tout se met à briller, tout se met à teinter. L'aurore s'est durcie dans un mur de cristal. On la croirait surgir d'un monde boréal. Toutes les notes roses se sont mises à jouer. Il y a dans chaque chose un air d'éternité. Ça sent la fête enfouie dans l'ombre de nos nuits. Elle entre sans frapper. Tout se met à briller, tout se met à teinter, tout se met à teinter.